J'dans un merdier, dans une impasse. J'soulève des sacs, que la décharge, ça pue la merde.
La vie c'est dur, un tas d'ordures. Besoin d'air pur, faut de confiture. Pas recyclé.
Et non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien d'un remix de PNL réalisé par Clean Mike Allan que je suis ravie d'accueillir dans ce podcast aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast, je pense que vous devez être un minimum sensibilisé à la cause environnementale et donc vous avez déjà dû entendre parler de ramassage de déchets et de dépollution. Ces moments peuvent paraître assez longs et se dire que l'on ramasse les déchets des autres, pas très motivant. Et ça, Eric Acopian, président de l'association Clean Mike Allan, l'a compris. Avec une com' d'enfer et des moyens de motivation sans pareil pour sensibiliser et faire venir un maximum de personnes pour dépolluer les calanques de Marseille entre potes. Amoureux de Marseille et des calanques, c'est en plein footing qu'il s'est étonné de la quantité de déchets sur les sentiers des calanques. Saisi par le contraste alarmant entre le cadre paradisiaque et l'abondance de déchets, il décide, sous les conseils de Lise, sa mère, d'organiser des dépollutions entre potes pour passer de l'action à son échelle. Je vous préviens, dans cet épisode, il n'y a pas de filtre. Eric parle franchement et nous partage sa vision du monde et de la place de l'être humain dans l'écosystème naturel qu'il héberge. Mais aussi, il nous partage l'histoire de Clean My Calanque. Alors, comment une dépollution entre potes est-elle devenue l'association environnementale phare de Marseille ? Quelles sont les stratégies pour sensibiliser et attirer le grand public peu concerné par la cause environnementale dans des dépollutions ? Dans cet épisode, Eric Acopian nous partage ses secrets. Bonne écoute dans cet épisode 100% Marseillais. Bonjour Eric et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu.
Bonjour Héloïse, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Alors écoute, on va commencer cette interview avec la première question que je pose à tous mes invités, qui est: peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites ?
Je m'appelle Eric Acopian, je suis Marseillais. Alors pas vraiment d'origine, parce que j'ai grandi d'abord en Arménie, puis en Tunisie au Canada. Donc je suis arrivé en France et à Marseille à l'âge de 10 ans. Et en fait, je suis tombé amoureux de la région. Donc, je ne veux pas dire que de Marseille, parce que vraiment, toute la Provence, je suis fan. Je suis coach sportif à mi-temps. Et de l'autre côté, je gère l'association Clean My Calanque avec mes potes. Et on essaye justement de faire en sorte d'avoir une ville propre. C'est le but. Pour l'instant, je ne me considère pas comme sauveur de la planète, mais on essaie de faire déjà Marseille, c'est déjà bien. Donc, voilà, coach sportif et on organise des belles choses avec Clean My Calanque.
Il y a déjà pas mal de choses à faire sur Marseille au niveau des dépollutions. Mais juste avant d'en venir à Clean My Calanque, j'ai lu que tu étais avant chasseur alpin dans l'armée. Comment est-ce que tu es passé de chasseur alpin à Clean My Calanque ?
C'est pas directement lié, mais en fait, oui, parce que c'est juste que depuis que je suis petit, je suis fou de nature et je suis toujours dehors. Donc, en fait, chasseur alpin, ça a été parce que il fallait que j'aille à l'armée, parce qu'il me fallait des sous et que j'étais perdu. J'ai fait une période scolaire catastrophique. J'étais un très mauvais élève, dans le sens pas méchant, mais catastrophique, un peu bordel, un peu tout le temps. Du coup, une fois que j'ai eu mon bac, je savais pas quoi faire, j'avais pas envie de faire des études. Du coup, je suis allé à l'armée parce que ça payait bien. Et en fait, je me suis retrouvé par chance dans, on va dire, l'un des corps de l'armée les plus sympathiques, parce que tu es tout le temps dans les montagnes, que ça soit en Savoie, en Pyrénées et tout. C'est incroyable, les vues sont incroyables. Et c'est vrai que ça a encore plus accentué peut-être le côté nature et le bien que ça peut faire. Mais en vrai, j'avais déjà aussi cette empathie envers tout ce qui était un peu, tu vois, naturel. Et même à l'armée, je me rappelle, j'ai des anecdotes assez drôles justement, où petit à petit, genre j'avais mis en place des systèmes de tri alors qu'il n'y a pas du tout ça qui est fait, tu vois. Pour l'anecdote, en gros, il y a le bureau, tu vois, des sous-officiers. Et en fait, ils trient pas du tout. Donc moi, je mets en place un carton tri, je leur dis vous pouvez mettre le papier ici, c'est moi qui vais ensuite le jeter à la poubelle. Enfin vraiment, j'essaie de les faciliter. Et à chaque fois, ils l'enlevaient, ils le viraient, etc. Et moi, ça me gonflait. Et ils me disent non, mais c'est parce que c'est top secret ce qu'on met, alors que c'est pas vrai. Hein, les documents top secret, ils sont ailleurs. Donc je le savais, je les disais mais mettez le tri, c'est moi qui jette. Et au bout d'un moment, ça m'avait tellement gonflé que j'ai marqué sur le carton des sous-officiers. Hein, c'était dans le bureau de sous-officiers. J'ai marqué pensez à la planète bande de putes. Mais j'en avais marre, ça me gonflait, et du coup, j'avais dessiné des panneaux de signalisation, enfin bon. Et bizarrement, quand j'y ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais j'ai même pas pris une correction. Enfin, je me demande pourquoi je me suis pas fait punir à ce moment-là, parce que c'était quand même assez vulgaire, mais bon. Donc, en gros, à l'armée, ça a été 3 ans où tu étais tout le temps dans la nature, mais je revenais sur Marseille tout le temps. Et pour m'entraîner, pour ma formation de chasseur alpin, il fallait faire des footings alpins. Donc, ça veut dire, c'est les footings en côte, dans du dénivelé, tout ça, parce que, ben voilà, c'est, nous, on évolue dans la montagne. Donc, les calanques, j'y allais encore plus souvent, parce que dès que je venais sur Marseille, je me promenais dans les calanques H24 et je faisais mes footings là-bas. Et à force d'aller dans les calanques tout le temps, ben, j'ai vu qu'il y avait des déchets partout et pas que dans les lieux touristiques. Donc au début tu râles, tu penses que c'est que les gens qui jettent, mais après tu te rends compte qu'en fait bah, c'est les déchets qui viennent de la ville, c'est le vent qui ramène, la pluie, etc. Au lieu de péter un plomb, j'en ai parlé avec ma mère et tout, et j'ai décidé d'appeler mes potes pour faire cette fameuse première randonnée qu'on a fait, la première randonnée Clean McAlanque. On va dire que c'est grâce à mon côté à l'armée que du coup j'ai augmenté mes fréquences dans les calanques, et du coup j'ai pu vraiment prendre peut-être conscience de l'ampleur des dégâts, tu vois. Donc on va dire que ouais, c'est quand même étroitement lié. Après, on a lancé donc la page Facebook de l'asso et j'ai arrêté l'armée très peu de mois après pour reprendre mes études en STAPS. Donc voilà, c'est comme ça la passerelle.
Je me pose la question quand même, comment ça t'est venu cette sensibilisation de la gestion des déchets ? Parce que j'imagine qu'il y en a plein qui étaient dans ton cas, qui allaient aussi faire leur footing dans les calanques, etc. Et même en amont, ce que tu disais, le tri sélectif dans les bureaux des sous-officiers, etc. Comment ça t'est venu ça ? C'était dans ton éducation, tu le savais déjà ou t'as eu un déclic ?
On en a parlé hier, dis-toi, avec une amie. Et franchement, on a grandi quelques années en Arménie avec ma mère et après dans d'autres pays. Et franchement, je ne me rappelle pas trop exactement. Je sais qu'elle m'a bien éduqué, mais c'était là-dessus. Tu sais, ça n'existait pas trop l'écologie avant. Il n'y avait pas tout le monde qui était réveillé là-dessus. Donc, ce n'est même pas de leur faute. Même quelqu'un qui était bien éduqué, pas forcément, il allait te parler d'environnement, tout ça. Après, je sais que ma mère m'a expliqué qu'en Arménie, il y avait pendant l'URSS, parce que quand elle était petite, c'était encore le communisme, il y avait des journées spéciales, donc ça s'appelait les Subotni, et en fait, ben, tout le monde sortait dans le pays pour nettoyer son pays. Donc, il y avait des petites anecdotes comme ça. Bon, elle me l'a raconté il y a peu, donc c'était juste, elle m'a dit, ah, tu sais, d'ailleurs, en Arménie, pendant l'URSS, il y avait ça. Mais franchement, je ne sais pas trop d'où ça vient. Je suis désolé, parce que souvent, on aimerait bien avoir, tu sais, savoir d'où ça vient, parce que ça fait plus stylé dans l'histoire, en mode oui, c'est parce qu'un jour un moine tibétain m'a expliqué, mais en vrai pas tellement. Je sais qu'on se construit pas tout seul et que c'est sûrement lié à des gens qui me l'ont dit, mais j'ai aucun souvenir de ça. Je suis très empathique de ça, parce qu'à côté de ça je suis aussi vegan à fond, et moi dès que ça touche les animaux, la nature, ça me tend. Donc peut-être que c'est ça, je crois que ça doit être ça, c'est l'empathie qui fait, je pense. L'empathie, la curiosité, j'ai tout le temps des questions à poser. J'ai passé 18 ans à poser des questions à tout le monde, c'était fatigant. Bon, maintenant, du coup, c'est cool, je suis content, mais j'ai été tout le temps rempli de questions et je pense que c'est un mélange d'empathie et de curiosité.
Du coup, tu m'as dit que c'était avec des potes que tu as initié Clean McAlanque. Donc, Clean McAlanque, en fait, c'est une histoire de potes. Comment ça s'est fondé ?
Dès le premier ramassage, enfin, j'ai appelé mes potes, j'ai créé la page Facebook pour, tu sais, parce que sur Facebook, à l'époque, quand il y avait encore des gens sur Facebook, bah, du coup, c'était plus simple pour créer un événement, pour dire l'heure, la date, tout ça. Et en fait, j'ai juste dit, bon, les gars, qui c'est qui est chaud de faire cette fameuse rando, hein, que on fait tous, c'est-à-dire avec le pique-nique, la musique, tout ça, mais on se rajoute une paire de gants et un sac, un petit challenge. Et en fait, dès le début, mes meilleurs potes m'ont dit, ben, feu. Donc, on s'est retrouvés à 7. Le premier ramassage, on a fait à 7. Et c'était tous mes potes. Et c'était évident pour eux, tu vois. Ils n'ont même pas hésité. Ça a été surtout avec ma pote Céline, du coup, ma meilleure pote Céline, qui dès le début est avec moi. Ben, en fait, ils se sont dit, ben, go, en fait, on est tous fans des calanques, on est marseillais, parce qu'on est tous marseillais de base aussi. Et c'est vrai qu'ils ont tous eu la même réflexion que moi. C'est-à-dire, ben, c'est ce contraste entre la beauté, tu vois, des calanques et tous les déchets qu'on y trouve. Donc, ils n'ont même pas réfléchi, ils sont venus direct. Et petit à petit, moi, en fait, ça fait pendant 5 ans, ben, on a géré ça entre potes. Donc, le côté positif, c'est que chaque réunion finissait en soirée. Le côté un peu moins, un peu plus chiant, c'était que chaque soirée finissait en réunion aussi, tu vois. Donc, à minuit, ça a commencé à parler de climat calanque et de boulot. Je disais, les gars, s'il vous plaît, venez, on passe une soirée tranquille. Donc, tu vois, c'est les petits côtés un peu, bon, c'est rien de méchant, hein. Mais des fois, tu as envie de lâcher, tu vois, tu te dis, bon, allez, 19-20 heures, tu as envie de lâcher avec le boulot, mais non, tu te trouves en soirée avec tes potes et du coup, ça reparle de ça. Mais ça est méchant. Hein.
Parce que c'est vrai qu'on parle de Clean McAlanque depuis le début, mais pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer vos missions et les objectifs ?
Clean McAlanque, en deux phrases, c'est on organise des ramassages de déchets, bon, à la base entre potes, mais maintenant, on a formé plein de bénévoles, donc je peux plus trop dire ça entre potes, mais ça reste quand même des gens incroyables. On organise des ramassages de déchets sur tout le littoral marseillais. Et à côté de ça, on sensibilise tout le monde, et je vais bien insister après sur le tout le monde, pourquoi c'est important, pour qu'il y ait moins de déchets ramassés plus tard. Parce qu'en fait, le but de l'asso, c'est de plus exister. Le but des ramassages, c'est qu'il n'ait plus lieu d'être. Donc pour ça, tu ne peux pas te passer de sensibilisation. Et là-dessus, ça va être un point où je vais insister vraiment très fortement dessus parce que c'est le plus important, les sensibilisations. Donc nous, voilà, on fait des ramassages tous les mois, enfin pratiquement deux fois par mois. Et à côté de ça, toutes les semaines, ben, moi, je vais dans les établissements scolaires et je sensibilise les enfants, les lycéens, les étudiants, tout ça.
Vous êtes tous bénévoles ou vous êtes aussi salariés? C'est une asso, c'est comment ça se caractérise?
Ouais, c'est une asso. Et en fait, pendant 5 ans, on a été bénévoles. Donc Céline et moi, les 3 premières années, puis Céline, Julia et moi, les 2 d'après, donc ça fait 5 ans qu'on a fait ça bénévolement, mais ça fait maintenant 6 mois que Céline, Julia et moi, on a quitté entre guillemets nos tafs pour se lancer à fond dans l'asso, et on trouve des manières de, en gros, tu vois, enfin, elles sont en freelance, du coup on peut payer tout ça, enfin c'est compliqué, on gagne pas des masses, mais moi j'ai de la chance pour, là je parle personnellement, de ne pratiquement rien acheter, de pas consommer, donc j'ai pas besoin de grand chose, mais par contre ça serait bien que petit à petit, tu vois, on ait des vrais salaires parce que bah, la vie, elle a un coût. Et puis, en vrai, ça...
Ouais, c'est
ça
clair, avec l'inflation et tout. Mais c'est le prix à payer quand tu fais un métier passion, en fait.
Exactement. Tu comptes pas les heures, tu... Ouais.
Je me posais aussi la question de... C'est un projet entre potes, etc. Et comment est-ce que tu fais pour amener les gens à venir ramasser des déchets sur la plage? Genre, est-ce que tu as des moyens de communication, des moyens de motivation spécifiques?
Alors, c'est le plus important, ça. En fait, il faut toujours être original, toujours penser à se renouveler, mélanger de l'humour. Ma pote Céline, qui fait un travail de com incroyable, genre, tu sais, c'est trop stylé, elle est trop forte, elle arrive à faire des belles maquettes, des belles vidéos, enfin, des beaux montages. Donc, déjà, ça donne envie parce que on est dans une ère, dans une époque où ça joue énormément les réseaux sociaux. C'est dans les questions d'après, mais on va en parler. On a fait des clips aussi, des clips écolos et qui ont amené les gens, enfin, la curiosité des gens. Mais sinon, en gros, il faut de la bonne com. Tu mets un peu d'humour, de l'originalité et toujours tu cherches à divertir, entre guillemets, parce que nous, maintenant, c'est devenu des événements un peu, tu vois. Donc, on met de la musique, on amène un DJ sur place, on amène des pizzas, on donne des cadeaux aux gens pour ceux qui trouvent des déchets originaux. Des fois, on fait des ramassages à thème, thème Saint-Valentin, thème Halloween, thème Harry Potter, tout ça. Et en fait, il faut les régaler le plus possible parce que, évidemment, les gens viennent pas, enfin, les gens viennent pour faire un geste. Mais c'est tellement beau quand tu vois tous ces gens qui viennent donner de leur temps que nous, on ne peut pas s'empêcher de se dire « putain, il faut les régaler », tu vois. Donc nous, on essaye avec beaucoup d'humour et après, on a ce côté marseillais. Donc les Marseillais nous connaissent, les Marseillais nous comprennent. Donc tu vois, on fait des ramassages avec les supporters, on fait des ramassages avec l'OM et tout. Et ça permet justement de créer une sorte d'énergie locale parce que je vais insister aussi dessus. Mais nous, on est basé sur Marseille et pour l'instant, on se focalise sur sauver notre ville, tu vois. Mais c'est important, voilà, d'être original, de toujours trouver des nouvelles idées et surtout de ne pas avoir un discours culpabilisant, de ne pas crier sur les gens et de faire avec les gens. Je m'explique. Ça ne sert à rien de faire des événements qu'entre écolos. Parce qu'en fait, les écolos savent déjà tout ça. Et ce n'est pas que des ramassages qu'il faut faire. Vu qu'il faut aussi réduire sa consommation, faire attention à tout ça, si tu fais des ramassages qu'entre écolos et que bah, les écolos savent déjà tout ça, tu perds ton temps. Nous, ce qu'on veut, c'est justement faire des ramassages qui touchent tout le monde. Mais tout le monde, même le gars qui s'en fout, même la meuf qui est pas du tout là-dedans, même le gosse qui te dit « j'ai pas le temps, je m'en fous », ben, c'est eux qu'il faut toucher. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours des trucs originaux, qu'on sensibilise toujours de façon déculpabilisante, avec beaucoup d'humour. On s'aide souvent ben, des influenceurs. On a fait des vidéos avec SCH, avec Michou, avec Enjoy Phoenix, Maximuska, Ben Goose, tout ça. Et petit à petit, ça aide justement à créer un lien pour pas que les gens ils pensent qu'il y ait un mur entre les écolos et les gens normaux, les citoyens. Non, il faut que tout le monde le soit un peu. Et du coup, très vite, on arrive au discours qui est le plus important, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Ça n'existe pas, l'écolo parfait. On doit juste faire tous un peu. Et c'est pour ça que j'en reviens à « il faut parler à tout le monde ». C'est parce qu'en parlant à tout le monde, tu leur expliques que « ok les gars, il n'y a pas grand-chose à faire, 8 milliards de personnes font un peu et c'est réglé ». Et là, les gens comprennent. Parce que sinon, ils vont dire « ouais, mais les gars, mais on peut pas, c'est impossible d'être parfait, j'ai un boulot, j'ai une voiture, j'ai ci, j'ai ça, mais t'inquiète pas. » Il faut un peu dépoussiérer l'image que les gens ont de l'écologie et surtout arrêter de croire qu'il y a des écolos et les non-écolos. Ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister.
Mais la question que je me pose aussi, c'est comment est-ce que tu fais pour attirer les personnes qui ne sont pas sensibilisées? Parce que c'est tout se fait, bah, comme tu l'as dit, par la com, donc les réseaux sociaux, etc. Mais les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi avec un algorithme. L'algorithme qui est, par exemple, je vais liker, je vais partager des trucs qui sont liés à la préservation de l'environnement, la gestion de déchets, etc. Donc, au fur et à mesure, l'algorithme, bah, potentiellement, il y a des chances qu'ils me proposent Clean My Calank. Mais pour les gens qui sont pas du tout dans ces moods-là, qui ont pas du tout ce type de loisirs ou d'attrait dans les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils arrivent à Clean My Calank?
Ben justement, en gros, c'est toute la clé basée là-dessus. C'est vraiment une très bonne question parce qu'elle est super importante. Comme je disais, si tu te cantonnes qu'au cercle écolo, tu vas toucher toujours les mêmes personnes. Sauf que nous, à chaque fois, on s'est rendu compte que l'écologie, tu pouvais la mélanger avec tout. Avec de l'art, avec le sport, avec le social, avec l'humour, etc. Du coup, dès le début, tu vois, on a fait les deux clips il y a 2-3 ans. Donc, on a touché les gens qui étaient fans de rap, de musique, etc. Ensuite, on a fait des vidéos avec des youtubeurs, donc on touche aussi cette sphère. Là, on va sortir dans quelques mois des vidéos avec des sportifs pros, où on a fait des très belles vidéos, etc. Donc, on va toucher les gens qui sont plus vers le sport. Aussi, depuis 2 mois, on fait des ramassages devant le stade avec les supporters. Et on a mis en place un partenariat avec l'OM, donc on touche aussi les supporters de foot. Et c'est super important de ne pas se cantonner qu'à l'écologie et justement se dire, mais en fait, quand tu réfléchis bien et que tu sais faire les choses, bon voilà, après il faut y aller au culot, hein, désolé, mais la plupart du temps c'était au culot. On y allait, bam, ok, viens, on fait des trucs, hop, hop. Si tu perds du temps à demander, tous les gens vont dire, ah, c'est un écolo, ah, sinon flemme, non, tu y vas, tu montres que c'est bonne ambiance, qu'on n'est pas là pour perdre du temps et que en fait on fait ça pas pour prendre les gens pour des cons et surtout pas pour prendre les gens de haut, mais pour dire qu'on le fait ensemble et tous ensemble on va y arriver. Et en fait, c'est une énergie, tu vois, qui se dégage et les gens ils kiffent, c'est tout, genre ils sont trop contents de venir, ils voient les vidéos, ils voient nos événements, ils voient nos sensi, c'est juste le sourire et on leur fait comprendre que ben c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Donc il faut à chaque fois toucher des sphères entre guillemets différentes. Donc l'art, le sport, l'humour, le social, tout ça.
On va revenir sur ce que vous avez fait avec l'OM et vos interventions lors des matchs, parce que je trouve que c'est ultra intéressant et je trouve que c'est vraiment top. Juste avant, du coup, je voulais revenir aussi sur le fait que, est-ce que vous avez des retours des participants? Quels sont les retours? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une réelle sensibilisation? Est-ce qu'ils reviennent de manière générale à ces dépollutions?
Ouais, alors ce qui est super intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de... Alors, ça tournait beaucoup dans les ramassages, dans le sens où on avait... toujours les gens qui revenaient, mais on avait énormément de nouvelles personnes à chaque fois. Et c'était trop satisfaisant. Et ça, ben, je peux que remercier les médias comme toi, hein, qui nous mettent en avant et qui parlent de nous. Et en fait, les gens nous découvrent aussi grâce à ça. Donc, merci vraiment parce que vous avez un rôle super important. Mais on a toujours des gens qui nous envoient des messages à la fin parce que on est super proches de tous nos abonnés, de tous les bénévoles qui viennent. Avec Céline, on s'est mis un point d'honneur à répondre à tout le monde, à répondre à tous les mails, à tous les messages Insta, alors qu'on en a des centaines à chaque fois. Et en fait, on veut répondre aux gens, on veut remercier tout le monde. C'est-à-dire que dis-toi, on envoie un message, et ça, tu verras, tu pourras même demander aux participants. À chaque fois qu'un participant, par exemple, il nous identifie en story lors du ramassage ou qu'il disait merci et tout, on envoie un message à chaque participant pour dire merci d'être venu, merci à vous, etc. Et ils voient qu'on est là pour les régaler, qu'on est juste là pour bonne ambiance et juste pour montrer une image différente de notre ville aussi, tu vois. On en a marre un peu de toujours dire Marseille, c'est dégueulasse, Marseille, c'est la ville des rats, des déchets, tout ça. Donc, on a beaucoup de gens qui reviennent et on a un soutien. Mais si tu sais même pas les gens comme je les aime, franchement, si vous écoutez, que vous êtes citoyen à Marseille ou que même vous nous aidez, sachez que de toute l'équipe Climat Calanque, on vous kiffe parce que ils nous donnent. Alors, faut que tu saches qu'on a énormément de dons. Donc, les gens nous donnent énormément de sous. C'est incroyable. Des entreprises aussi marseillaises, je sais pas, moi, la dernière fois, c'est un resto. Ils ont voulu faire un loto entre restos. Mais tous les sous, c'était pour Climat Calanque. Ils ont fait 3 500 € de sous pour le loto. Tous les restos du Vieux-Port. Et ils ont dit, écoute, on va le donner à une asso locale qui se démène, qui se casse les pieds. Et du coup, ils nous ont appelé parce qu'ils nous connaissent. Parce qu'on est une asso vraiment locale, hein. Les gens à Marseille nous connaissent bien. Et je pense que ça doit faire du bien de se dire, bon, je vais donner des sous à une asso locale, c'est du concret, tu vois, c'est dans ma ville. Et du coup, vraiment, les gens à Marseille, ils nous régalent. Et puis, tu sais, il y a aussi l'ambiance marseillaise. D'un coup, il y a le mec, il dit, oui, t'inquiète, mon cousin, il a un garage. Si tu as un problème avec la voiture, il peut t'arranger. Ouais, t'inquiète, va voir lui, il te fait un prix. Enfin, c'est l'ambiance marseillaise aussi. Là, je pense que tu peux pas le retrouver non plus. Il y a vraiment une chaleur. Dès que tu as un problème, ah, oh, Climat Calanque, mais venez, allez, c'est bon, et toi tiens, je te débrouille, le contact, et si, et basta, quoi.
Ça, c'est chouette. Mais pour revenir aussi à ce que tu as dit sur la communication et le fait de répondre à toutes les personnes qui sont venues, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça permet aussi à ces personnes de sentir qu'ils ont eu un impact, qu'ils ont fait quelque chose, en fait, qu'ils sont pas juste venus à une dépollution, un ramassage de déchets lambda. Leur action a eu un impact, en fait, ils ont fait quelque chose.
Vraiment, c'est super important et à chaque fois, c'est pour ça qu'on les remercie et qu'on les gâte parce que plein de gens nous disent, mais vous savez, même s'il n'y avait pas de cadeau ou quoi, on viendrait. On dit oui, mais c'est parce que ça nous touche tellement de voir autant de gens qui donnent leur énergie. On parle de gens qui viennent un dimanche, tu vois, il y a d'autres choses à faire peut-être le dimanche. Et les gens viennent donner de leur temps et de leur énergie un dimanche. Et surtout, c'est utile ce qu'ils font parce que bah, derrière, c'est de plus en plus propre. Et surtout, bah, derrière, on arrive à sensibiliser. Enfin bon, c'est vraiment, ils sont... Sans eux, on ne peut rien faire. Sincèrement, sans eux, on ne peut rien faire.
Mais c'est bien ce que tu viens de dire, ça me fait un bon relais. De manière plus technique, est-ce qu'il y a un type de déchets que vous retrouvez fréquemment? Et est-ce que tu sais d'où ils viennent de manière générale?
Ouais, alors en fait, les premières années, on faisait des ramassages, il y avait un peu de tout. Donc il y avait des déchetteries sauvages et les déchets lambda, tu sais, ménagers. Maintenant qu'on a fait pas mal de ramassages, les déchets sauvages, on en a de moins en moins, les grosses déchetteries. Par contre, il y a toujours autant de plastique et d'emballage. Tout. En fait, on en consomme trop. Et c'est ce qu'on dit aux gens. On dit, mais vous savez, c'est pas que les gens qui jettent par terre. C'est pas que ça. Il faut arrêter de croire que c'est sale parce que les gens jettent par terre. Évidemment, il y a ça. Mais c'est parce que déjà, les poubelles débordent, parce qu'on consomme trop. Et on n'est même pas capable de mettre des couverts sur certaines poubelles à Marseille, alors qu'il y a du Mistral. Tu vois, enfin, il y a des fois des trucs, ça n'a pas de sens. Donc vraiment, on essaie de leur dire, si vous voulez vraiment qu'il n'y ait plus de déchets, bah, il faut plus en produire, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on trouve, c'est des emballages. C'est les cartons, les McDo, les scies, les canettes, les bouteilles, tout ce qui est emballage plastique et déchets ménagers.
Est-ce que je me posais la question de l'origine de ces déchets? Est-ce que c'est les gens qui vont dans les calanques et qui les jettent directement? Ou est-ce que, justement, c'est l'apport du vent, en fait?
Il y a de tout. Il y a encore des abrutis qui vraiment jettent. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai failli rater mon permis moto à cause de ça. Un mec qui a ouvert sa voiture, qui a jeté son KFC. Je voulais le poursuivre et tout, mais le mec de l'auto-école, il m'a défoncé. Mais vraiment, il y a encore des gens qui font le fameux baisser la vitre et jeter les trucs. Mais sinon, dans un monde utopique où plus personne jette par terre, ça déborderait encore. Ou alors, ça finirait dans la mer dans tous les cas parce qu'on en voit dans les pays pauvres depuis des années, tu vois. Donc, les déchets, je vais te dire même plus simplement pour que tu comprennes, les ramassages de déchets. Si derrière, c'est pas suivi avec de la sensibilisation ou avec de la réduction de consommation de déchets, les ramassages sont inutiles. Mais vraiment, parce que, je vais donner un chiffre, tu vas comprendre. On ramasse 400 000 mégots par an. C'est énorme, ça fait des photos incroyables, c'est des tas et tout, tu vois, vraiment. Il y a 100 000 mégots qui sont jetés toutes les heures à Marseille. Il y a 8 millions de mégots qui sont jetés tous les jours en France. Donc, on leur dit aux gens, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il faut ramasser 8 millions de mégots par jour ou alors qu'il faut sensibiliser tout le monde pour qu'on ne jette plus de mégots? Et pareil pour les plastiques. On a ramassé 70 tonnes en 6 ans. C'est très bien. Ça fait des photos incroyables, ça fait des souvenirs et vraiment, on se sent utile. Mais il y a plus de 500 000 tonnes qui sont jetées tous les ans dans la Méditerranée en plastique. Tu vois?
Il faut traiter le problème à l'origine, en fait. C'est vraiment ça.
Exactement. Mais c'est essentiel de continuer le ramassage parce qu'il faut montrer l'exemple, il faut choquer, il faut montrer qu'on se bouge et qu'on a envie de bouger parce que sinon, notre parole, après, elle n'a pas de sens. Ils vont dire, ouais, mais bon, fais quelque chose. Donc, on se bouge, mais par contre, il faut absolument que les gens comprennent que c'est que le début, c'est que la partie visible de l'iceberg.
En off, je te disais que j'avais fait pas mal de ramassage de déchets au sein de Surfrider et on avait fait une étude avec des étudiants en licence qui devaient faire une gestion de projet et en fait, on s'était dit, tous les jours, vous allez faire deux ramassages de déchets, un le matin et à l'après-midi, et vous allez compter et vous allez essayer de en fait, faire un suivi sur une semaine de l'évolution des déchets. Et en gros, ça prouvait bien que oui, sans sensibilisation, sans qu'il y ait de changement à l'origine, bah, il y aura toujours, voire même plus de déchets sur la plage en fait. Donc en soi, un ramassage de déchets, c'est pas forcément utile dans le sens où ça va pas dépolluer, enfin ça va dépolluer sur le moment, mais sans résoudre le problème à l'origine...
Ça sert à rien.
C'est ça, malheureusement, c'est ça.
Mais les gens vont dire, c'est bien, il y a des assos, ils font à notre place, il y a les abrutis, là, ils vont le faire pour nous, bah, tant mieux, allez, démerdez-vous, et tenez un peu de subventions, et tenez un peu de sous. Donc non, il faut absolument sensibiliser et prendre le problème à la racine. Le problème, c'est que du coup, le vrai problème, c'est les entreprises et tout, mais elles ne sont pas encore prêtes à se bouger, donc il faudra encore que les citoyens fassent un peu, c'est horrible, mais...
Est-ce que vous faites des suivis de l'évolution de la quantité de déchets dans les calanques?
Ouais. Ben en fait, tu vois, on a absolument, sur notre site, on a tout. On a le nombre de déchets à chaque ramassage, le nombre de déchets plastiques, le nombre de mégots, le nombre de canettes et tout. Et on a justement ce suivi avec l'association Mère Terre aussi, qui fait beaucoup de scientifiques là-dessus. Et du coup, on leur envoie les données et eux, ils peuvent après tout mettre en place parce qu'ils font un suivi. Après, c'est pas le plus important non plus. Nous, on préfère mettre la sauce sur la sensibilisation que sur des suivis pour donner ça à des politiques qui s'en foutent et qui disent ok, bah cool. Non, c'est très important les chiffres, hein. Mais chacun son combat et Merter le fait bien mieux que nous en plus. Donc,
Oui, ils font de la science participative, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Peut-être qu'un jour ils viendront dans le podcast. Tout à l'heure, tu as parlé d'actions de sensibilisation dans les écoles. Qu'est-ce que vous faites dans les écoles ?
Là, pendant les 5 premières années, c'était moi qui le faisais parce que mes potes, ils aiment pas les gosses, tout simplement. Ils ont du mal avec les gosses, donc il faut avoir... En fait, si tu n'es pas pédagogue, ça sert à rien, quoi, parce qu'ils te bouffent sinon. Et là, comme il y a énormément de demandes, je commence à former des bénévoles parce qu'il y a trop d'écoles qui me demandaient, etc. Donc, en fait, dans les écoles, du coup, j'y allais. Et pendant une heure, en fait, il y avait une demi-heure où je présentais l'asso, nos actions et je montrais les photos du carnage. Et après, la demi-heure d'après, c'était eux qui prenaient la parole. Et donc, en fait, c'était des ateliers qu'on faisait. Il y avait des ateliers de dessin, des ateliers de rap, des ateliers de poésie, des ateliers de tout, quoi. Et en fait, ils avaient des feuilles, ils écrivaient toutes leurs idées pour sauver la planète, pour sauver Marseille, etc. Et après, ils présentaient devant tout le monde. Et du coup, des fois, quand il y avait du rap, on mettait l'instru et ils rappaient. Quand il y avait... des dessins, on les montrait à tout le monde. Quand il y avait juste du texte ou quoi, enfin, il y avait de tout, quoi. Et ensuite, du coup, on essaie, comme je disais, de les déculpabiliser. Il y a des classes, donc il faut t'adapter, parce que sinon, ils s'en foutent. Ils vont dire, c'est bien beau, mais on a d'autres choses à faire. Tu adaptes ton discours, tu essaies de le rendre le plus attrayant possible, tu vois.
À un moment sur votre site, vous avez expliqué que votre combat, c'est la préservation de l'écosystème. Parce que c'est vrai que quand on fait des ramassages de déchets, on ne pense pas forcément à pourquoi, surtout dans le cadre du parc national des Calanques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cet écosystème à préserver ?
C'est simple, si on ne préserve pas l'écosystème, ça ne sert à rien de ramasser les déchets, parce que s'il n'y a plus de nature, tu ne vas plus rien ramasser, quoi. Enfin, on va tous mourir. Donc l'écosystème dans les Calanques est très fragile, parce que là, on a un tourisme de masse depuis, et puis... même sans les touristes, il y a tout, il y a le dérèglement climatique, c'est des catastrophes sans nom, il y a les chasseurs, la liste est super longue. Et en fait, on dit, mais ramasser les déchets, ok, mais il faut derrière que tu sois convaincu que c'est pour l'écosystème que tu le fais, pour la nature. C'est pour ça que nous, on a aussi un discours sur la consommation de viande, sur tous les trucs un peu logiques qui rentrent là-dedans, parce que si tu ramasses des déchets pour bouffer de la viande tous les jours à tous les repas, t'es pas écolo, t'es juste... quelqu'un qui fait des bonnes actions. Mais si tu veux vraiment te battre pour l'écosystème et que tu aimes la nature vraiment, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. C'est pas que le ramassage de déchets, c'est consommer moins de trucs, peut-être prendre moins l'avion, réduire ta consommation de viande, tu vois, sans jamais peut-être aller dans les extrêmes. Mais l'écosystème, on peut le sauver à 8 milliards de personnes sans entrer dans les extrêmes, parce que utopiquement, ça serait une utopie de croire que tout le monde peut être parfait, vegan et écolo. Non. Ça n'existe pas, on est 8 milliards, il y a des gens, ils n'ont pas le temps ou ils s'en foutent. Par contre, si 8 milliards de personnes font un peu, c'est ça que c'est important. Là, on arrivera à défendre l'écosystème. Et il y a encore des humains qui, je ne sais pas comment ils pensent ça, que l'avenir de l'humain peut se faire sans son écosystème. Non, c'est impossible. Sans la nature, on est foutu. Et d'ailleurs, quand je suis avec des adultes, je me permets même d'aller un peu plus loin dans le discours, je leur dis, vous savez, sincèrement, je vous le dis, ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'être humain et son écosystème, parce que c'est pas avec 3 piles électriques et 2 sacs plastiques que la planète va exploser. Non, l'être humain va mourir parce qu'on aura décimé tout son écosystème. Et ensuite, dans 100 000, 200 000 ans, il y aura une autre espèce qui prendra le dessus. Donc, pour ceux qui s'en foutent de l'écosystème, je suis obligé d'aller là-dedans. Je suis obligé de leur dire, si tu t'en fous, alors pense égoïstement à sauver les humains ou à sauver ta miche. Parce que sinon, dans 10, 20 ans, ça va être chaud, là.
Ouais, mais le problème aussi, c'est qu'on a différencié l'écosystème nature-environnement à celle de l'humain, alors qu'on fait partie de cet écosystème, en fait. Et c'est ça, il faut résoudre ce problème de cette dichotomie, en fait. Il faut que ça revienne à un seulement.
C'est exactement ça, mais j'émets quand même un doute, parce que personnellement, plus je m'intéresse à ça, plus je me rends compte qu'on est vraiment, mais rien à voir là-dedans. Genre, on est vraiment une erreur. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse dans l'écosystème, on bouleverse tout. Quoi qu'on touche, c'est une catastrophe qu'on fait, l'être humain. Ce qui est sûr, c'est que notre avenir et notre survie ne dépend que de notre écosystème et de la nature, parce qu'on est lié. Mais par contre, je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée que l'être humain reste, parce que quoi qu'on touche, quoi qu'on fasse, on détruit tout. Tout. Parce que le moindre papillon qu'on touche, la moindre fourmi, ça dégomme toute la chaîne alimentaire, le moindre produit qu'on fait, ça fait les catastrophes, la moindre... Donc vraiment, des fois, je me demande si on n'est pas juste une erreur, et comme disent dans Matrix, là, dans le film Matrix, si on n'est pas juste un virus, quoi. Parce que sincèrement, on n'agit pas du tout de façon logique avec sa nature. Mais depuis le début, j'ai un livre, il s'appelle Sapiens, je ne sais pas si tu connais, et j'ai lu justement l'histoire de l'homme depuis le début, et depuis le début, c'est catastrophe sur catastrophe. Donc évidemment, avant, c'était moindre parce qu'on était 2, mais maintenant qu'on est 8 milliards, tu vois, c'est pas pareil. Et ok, notre survie dépend de la nature, mais des fois, je me demande si la nature a vraiment besoin de nous, quoi, tu vois, parce qu'on fait rien de très logique, rien de naturel, on ne veut pas vivre en symbiose avec, on veut un peu être trop dans le confort, et même moi qui me prétends écolo, tu vois, je suis encore trop dans le confort, dans ci, dans ça. Alors oui, j'ai fait l'armée, donc tu peux me faire dormir dans la forêt, mais on s'est trop éloigné, et pour la nature, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée qu'on reste, quoi.
Bah écoute, c'est une très bonne question, je me la pose aussi. Et du coup, parce que là, voilà, donc c'est vrai que c'est bien triste tout ça, mais quelles seraient pour toi, selon toi, les solutions pour résoudre ces problèmes ?
Alors, c'est vraiment pas si compliqué. Et justement, vu que c'est pas compliqué, c'est super compliqué. Il n'y a rien de compliqué pour sauver le monde, il faut juste, entre guillemets, moins consommer de tout. Et entre guillemets, moins manger de viande. Vraiment, c'est ça. C'est bête, hein, mais les solutions, c'est moins consommer de tout. Pourquoi je dis de tout ? Parce que en fait, il y a 6 gros piliers, genre l'alimentation, les produits technologiques, les transports, la mode, etc. Et en fait, ces 6 piliers, tu peux pas être parfait là-dedans. Mais par contre, tu peux essayer de faire des efforts dans un ou dans les 6 à moindre échelle. Et quand tu vois ce qui marche le plus, ce qui pollue le plus, c'est la viande et la mode. Donc, si tu consommes moins en général, c'est-à-dire tu achètes d'occasion, tu achètes moins d'habits, tu achètes moins de tout, quoi. Et que juste tu manges moins de viande et tu prends moins la viande, ça ira beaucoup mieux. Mais c'est super simple. Et les gens pensent que c'est compliqué, ils font des études, ils inventent des nouvelles machines et des ci et des ça. Tu vois le fric qui est mis pour des absurdités. Des fois, nous, on est là, on voit des choses, mais on dit, mais ça n'a aucun sens. C'est ni écolo, ni logique. Genre, pourquoi vous mettez des milliards d'euros et des milliards d'heures et autant d'heures de travail pour des trucs, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Mais comme c'est simple de sauver tout ça, ben, ça devient trop compliqué et les gens, ils comprennent pas. Il n'y a rien de compliqué. Tu consommes moins, tu produis moins, peut-être faire quand même un peu moins d'enfants, parce que bon, ça, tous les animaux l'ont compris. Hein, tous les animaux savent se gérer. Hein, dès qu'il y a un peu moins de ressources, ils font moins d'enfants, mais nous, on n'est pas comme ça. Mais voilà, mange moins de viande, consomme moins et vis ta vie tranquille et voilà, qu'on continue, kiffe.
Donc pour toi, réduire la quantité de personnes sur Terre serait l'une des solutions ?
Pas tellement encore pour l'instant, parce que les scientifiques disent que jusqu'à 10 milliards, ça peut le faire encore. Donc, je t'ai dit, si on est 10 milliards mais qu'on est exemplaire, ça n'a rien à voir que si on prend les 500 millions d'Américains qui font carnage. Donc oui, 500 millions d'Américains, ils produisent pour 8 planètes. Donc c'est pas vivable. En fait, c'est simple, c'est soit on y arrive et on est 10 milliards, on arrive à cohabiter, à consommer moins, etc. Soit, mais il va nous arriver des dingueries, parce que il y a un truc que je dis pas trop au grand public pour pas leur faire peur, mais avec la fonte des glaciers, il y a des virus qui vont sortir du permafrost. C'est pas le coronavirus, hein, c'est pas le Covid. Hein. Ça va être des trucs qui ont tué des dinosaures et qui ont dégommé la moitié de l'humanité des espèces, donc on va moins rigoler. Donc, soit on fait attention.
En fait, c'était les gaz à effet de serre qui étaient sur Terre, du coup, lors de ces périodes-là, avant la période glaciaire, etc., qui ont été.
Mais aussi les virus. Ça va être une catastrophe. Et je ne te parle même pas de toutes les maladies, enfin, tous les tsunamis qu'on va se prendre, les dérèglements climatiques. Les gens croient que c'est juste un réchauffement, donc il va faire plus chaud. Non, c'est un dérèglement. Donc il va y avoir des périodes de gel après le printemps. Donc ça veut dire que tous les bourgeons et les insectes vont mourir. Donc, il y aura moins de fruits, moins de légumes, moins de bouffe. Et quand tu vois l'état de la France quand il y avait moins d'essence, putain, je ne sais même pas comment ça va se donner quand il y aura 3 tomates dans les magasins, quoi. Genre, vraiment, les gens vont se tuer. C'est comme ça. Hein.
Après, cette question, c'est de est-ce qu'il faut moins procréer, etc. Ça fait débat parce que les données montrent que la population augmente particulièrement dans les pays en voie de développement, en fait. Donc, ceux qui consomment moins. Donc, c'est là, pour moi, la solution serait plus il faut absolument qu'on modifie nos façons de consommer. Parce qu'en fait, c'est nous, population, enfin, la population qui est dans les pays développés, les pays riches, etc., qui consomment le plus et qui polluent, en fait. C'est ça, le problème. Donc, la problématique, elle vient plus dans la consommation.
C'est exactement ça. En plus, maintenant, les pays en voie de développement, ils veulent aussi leur part du gâteau. Ça veut dire qu'ils disent, bon, ben, les gars, vous êtes régalés pendant 500 ans. Mais en fait, nous, maintenant, on commence à se développer. Ben, on a envie, nous aussi, de manger de la viande, d'avoir des vies de luxe et tout. Donc, c'est aussi compliqué à leur expliquer parce qu'ils vont dire, ouais, mais c'est un peu hypocrite, les gars. Vous nous faites la leçon, mais vous avez fait carnage pendant 500 ans. Tu vois, donc c'est pour ça que ce discours, il est super compliqué. Et si tu n'adaptes pas ton discours, ça ne marche pas. Moi, tout ce que je viens de dire, sincèrement, je ne vais pas le dire ailleurs qu'en France parce que ça ne marche que dans un pays riche. Dans notre pays, ils vont dire « Ouais, mais quoi, on a faim, nous, on s'en fout de ton truc. » Donc, il faut toujours adapter. Il faut toujours trouver. Mais Ce qui est sûr, c'est que tout le monde est d'accord sur moins consommer et changer, c'est tout. Ça va se changer autrement. Sinon, l'être humain, on va bien rigoler dans 10 ans.
Ça. Est-ce que l'écologie est un problème de riches ?
Encore trop, ouais. Pour l'instant, oui. C'est trop un problème de riches. Les gens, mais c'est fou parce que c'est des discussions que j'ai encore eues il y a si peu de temps. Genre vraiment, les gens, ils disent encore, oui, c'est trop un truc de riches. Ça. C'est le discours, comme il est fait que par un certain type de personne, il s'adresse qu'à un certain type de personne. Il faut le vulgariser, il faut le rendre accessible à tout le monde parce que ce n'est pas que pour les riches. Mais je suis d'accord, pour l'instant, c'est encore trop pour eux. Tu es là toute la journée à vouloir faire des choses bien.
Moi, je voyais plus ça, pas dans l'accès à l'information, mais par rapport au fait ce que tu as dit juste avant, dans le sens où nous, l'écologie, la gestion de déchets, c'est une des problématiques à laquelle on fait face. Mais par exemple, dans les pays en voie de développement, ils font face à la sécheresse, manque d'eau, manque de nourriture.
Complètement. C'est quand tu as l'assiette bien remplie et le ventre plein que tu peux penser à « Ok, comment je vais faire pour gérer mes déchets ?» Du coup, au final, ils les envoient dans les pays pauvres. Hein, mais évidemment que ça fait partie, tu sais, la fameuse pyramide, hein, c'est les besoins secondaires. Nous, les besoins primaires, on les a déjà. Donc, on peut y penser. C'est pour ça que je me vois surtout pas aller dans un autre pays voir ça parce qu'ils vont dire « Mais gros, mais t'es hypocrite. » Donc, tu vois, c'est compliqué.
Bon, on s'est un peu laissé emporter sur les questions écologiques de notre monde actuel. Mais pour revenir à Clean My Calang, du coup, est-ce que tu disais au début d'interview que vous faites des ramassages de déchets, des dépollutions en période de match? Et c'est vrai que j'avais vu cette vidéo, ces reels là sur Instagram. Est-ce que les gens sont réactifs, viennent vous aider? Parce que j'imagine que lorsqu'ils vont en match devant le Vélodrome à Marseille, ils veulent juste rentrer, voir le match. Mais est-ce qu'il y en a qui justement répondent à votre demande?
La première fois, c'était assez marrant, hein, mais on avait pour ça, on avait justement eu l'idée d'annoncer sur les réseaux notre premier ramassage. Et en fait, on a demandé à toutes les pages de supporters, toutes les grosses pages de fans, toutes les pages aussi des personnalités connues de l'OM, Hamza, Ben Gousse, tout ça, de partager en story pour dire, voilà, on annonce, vous allez voir Clean My Calang passer et on vous incite à faire un ramassage avec nous. Parce qu'on le fait pas à leur place. Et c'est super important, cette différence. On n'est pas là pour le faire à leur place devant eux. On ne ramasse rien sans eux. On fait avec eux. Sinon, pour pas qu'ils, parce que sinon, ça sert à rien. On va être, comme je disais, les abrutis de service. Du coup, on l'a annoncé en amont sur les réseaux. Ensuite, quand on est devant le stade, avec le mégaphone et tout, c'est vrai que la première fois on y allait, ils nous regardaient un peu bizarre. Mais en fait, au bout de, 5, même pas 30 secondes, il y en a 2-3 qui l'ont fait et bam, ça faisait, ça fait effet boule de neige. Tac, 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 tac. Et maintenant, à chaque fois qu'on le fait, ils nous reconnaissent. Ils disent, ah oui, on vous a vu sur les réseaux, on a fait la vidéo, venez, tenez et tout. Et ils ramassent avec nous et tout. Donc, évidemment que ce n'est pas encore propre. On n'a jamais dit que ça allait être parfait. Par contre, c'est des petites graines que tu plantes, c'est des petites actions. C'est même plus, je dirais, de la sensibilisation, ce qu'on fait, que du ramassage. Parce qu'on fait ça pour qu'ils voient qu'il y ait des supporters qui en ont quelque chose à faire, etc. Et que plus tard, ils se disent, bon, mais en fait, ça fait 3 fois que je ramasse, la 4e fois, j'ai plus envie de le jeter, quoi. Donc, vraiment, c'est super important de comprendre que c'est avec eux et que c'est de la sensibilisation plus qu'autre chose, parce que c'est pas encore parfait, c'est encore sale, tu vois. Mais ça marche trop bien. Les gens, on a que des bons commentaires. Ils sont là en mode, mais vous avez trop raison, c'est notre stade, ok, on y va, bravo pour ce que vous faites, on va le faire la prochaine fois, tenez et tout. Donc, vraiment, c'est, pour l'instant, c'est parfait.
Est-ce qu'il y a des publics plus difficiles à sensibiliser que d'autres ?
Sincèrement, oui. Les plus simples, c'est les enfants. C'est adorable. Ils sont innocents. Ils ont juste une envie, c'est de comprendre pourquoi c'est la merde tant. Et les plus difficiles, ça va être certains adultes, tu sais, qui sont déjà dans une routine, qui ont leur boulot, dodo, tout ça, et qui ont la flemme de trop changer parce qu'ils sont dans un confort, tu vois. Et eux, dès que tu touches un peu trop à ça, ça les titille, ils se braquent. Donc, on arrive quand même à les sensibiliser, mais il faut y aller vraiment avec des pincettes parce que ils sont déjà dans leur rythme, ils n'ont pas envie de changer, ça a été trop chiant pour eux, etc. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, ils vont croire que c'est pour les saouler, pour les rendre fous. Donc, c'est les plus durs à sensibiliser. Les adultes, tu sais, qui sont déjà dans leurs habitudes.
Vous faites des actions aussi avec les quartiers défavorisés de Marseille un peu ?
Déjà, les Sensi, c'est essentiellement là-bas, parce que c'est énormément eux qui nous appellent, parce que ils ont plein de projets trop cool qu'ils mettent en place, dont les projets écologiques. Donc, très souvent, c'est dans les quartiers défavorisés. Et oui, on a fait déjà des ramassages au parc Corot, on a déjà fait des ramassages dans différents parcs dans les quartiers nord, avec la Préem, avec d'autres institutions et tout. Donc, c'était à chaque fois, c'était trop bien, quoi. Même quand on fait avec les clubs de foot et tout, on va autour des stades, c'est toujours trop bonne ambiance.
Pour revenir au sujet de la communication, j'ai envie de partager dans l'audio, si tu me le permets, un petit passage de votre morceau, une reprise de PNL.
Ah oui, bien sûr, mais évidemment.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ça ?
La vie c'est dur, un tas d'ordures, besoin d'air pur, faut de confiture, pas recycler.
Ben en fait c'est simple, c'est dès les premiers ramassages on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on touche beaucoup de monde. Et vu qu'on était dans les calanques, en plus on n'avait pas beaucoup de visibilité, et nous on adore le rap, et avec mon pote Adrian, qui est lui monteur vidéo, vidéaste et tout, enfin il fait des dingueries, ben très vite on s'est dit mais viens on fait un truc que nous ça nous touche, donc le rap, la musique et tout, et avec un peu d'humour, pour essayer de toucher le plus de monde possible. Donc on a tourné la vidéo, on a écrit les paroles, et lui il a tout monté, tout fait tout seul. Et on l'a sorti, donc ça a fait un très très joli carton, les journaux, la radio, la télé, tout ça. Et ça nous a permis justement d'avoir plein de gens qui venaient, parce que derrière le clip, donc ils ont bien rigolé, ok, mais ils ont dit, bon, ils ont fait un clip, mais en fait, ils sont pas là pour chanter. Derrière, ils font des ramassages, etc. Donc le message a été très bien compris. On a été choqués à quel point tout le monde a compris que ben on n'était pas des chanteurs du tout. Déjà, ma voix dans la vraie vie, elle est horrible. Et surtout, ben, ils ont dit, ben, en fait, non, ils font des ramassages, donc venez, on y va, bonne ambiance et go, quoi.
Ça, c'est vraiment top d'avoir fait ça comme ça. Bon, du coup, on se dirige vers la fin de cette interview. Comment est-ce qu'on peut soutenir Climat et Calanque ?
Sur nos réseaux, hein, vous pouvez nous suivre partout, parce qu'on a des projets qui arrivent tout le temps. Tout le temps des nouveaux projets, des nouveaux challenges, des nouvelles vidéos, des défis avec les citoyens, des défis avec les passants et tout. Enfin, on a plein d'idées, on a des vidéos avec des sportifs qui vont sortir dans pas longtemps, ça va être incroyable. Donc vraiment, on vous invite à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, s'il y a encore des gens qui utilisent Facebook, sur YouTube, partout. Et pour nous soutenir, vous pouvez venir à nos ramassages, mais après, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, il y a plein d'autres façons de faire. Si vous êtes prof, vous pouvez nous appeler et on vient dans vos classes pour sensibiliser les enfants. Si vous ne savez rien de tout ça, vous pouvez nous faire un don. On a mis en place maintenant un système de dons de 1 euro par mois. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bah, si les milliers de personnes qui nous suivent, ils donnent ne serait-ce que chacun 1 euro, c'est parfait. Et ça marche trop bien. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Et franchement, c'est, je te dis, on a tellement d'aide des gens qu'on est, on est vraiment agréablement surpris.
C'est original, le principe de 1 euro par mois. Bon, du coup, pour enchaîner sur les 3 dernières questions de ce podcast, est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire à nous partager ?
Alors, il y a 2 choses. Il y a une citation et une petite histoire, mais c'est une histoire vraiment de 30 secondes. Donc, la citation que j'adore, c'est vraiment celle qui dit ben, « Donne du poisson à quelqu'un, il mangera une fois, et apprends-le à pêcher, il mangera toute sa vie. » Parce que ça résume vraiment tout, c'est-à-dire les ramassages, c'est donner du poisson à quelqu'un. Par contre, mettre en place des systèmes pour qu'il y ait moins de déchets, c'est apprendre à pêcher, en gros. C'est que pour vraiment arriver à tout, cette citation, elle est valable partout. Tu veux aider les pays pauvres ? Oui, certes, tu leur envoies du riz, ça va les aider. Mais sauf que si tu arrêtes de piller leurs mines, si tu arrêtes de faire appel à eux pour acheter des crevettes à 99 centimes parce que du coup, ils sont obligés, eux, de piller toutes leurs rives et tout, si tu arrêtes de les utiliser pour qu'ils aillent dans des mines de charbon pour construire nos portables et tout, là, ça va vraiment les aider. Donc, envoyer du riz de temps en temps et des dons, c'est donner du poisson. Mais si tu veux vraiment les aider, il faut leur apprendre à pêcher, donc à être autonome et à les lâcher, quoi. Et ça, ça marche partout, dans l'écologie, le social, dans tout, tout, tout. Et sinon, après, j'ai une petite histoire que j'adore. Et en fait, ça résume pas mal la pensée qu'on a avec Climat Calanque, parce que ça résume que fais ce que tu veux, en gros, parce que dans tous les cas, les gens vont te juger ou vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. En gros, l'histoire, c'est juste 2 personnes âgées qui voyagent pendant 4 jours avec un âne. Le premier jour, ils sont à côté de l'âne. Et les gens disent, bah, ils sont bêtes, il faut qu'ils utilisent l'âne, il est là pour rien. Du coup, le deuxième jour, les deux sont sur l'âne. Et les gens disent, mon Dieu, mais c'est des monstres, ils vont le tuer, ce pauvre âne. Troisième jour, il y en a un qui descend de l'âne, du coup, c'est la femme qui est dessus, et les gens, ils disent, ah ben bravo, c'est qui a la culotte à la maison, le mec, il se laisse faire, etc. Donc, le quatrième jour, c'est lui qui monte sur l'âne, et les gens, ils sont là, oh, mais quel manque de considération, c'est pas du tout un gentleman, etc. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est que quoi que tu fasses, il y a des gens qui vont râler et critiquer. Donc, fais ce qui te plaît, kiffe, tant que ça empiète pas sur la liberté des autres et que tu fais du mal à personne, ben, fais ce que tu veux. C'est tout. Voilà.
Sympa, je la connaissais bien, c'est la dernière petite histoire. Est-ce que tu aurais une œuvre, un documentaire, un film, un bouquin à nous partager ?
Je suis obligé de parler d'un truc lié au véganisme, je suis désolé, mais c'est trop important. Il y a le film Game Changers, qui était incroyable, qui montre justement tous les athlètes de haut niveau, comme Mike Tyson, James Cameron, Jet Li et tout, Jack Chan, qui ont tous, Arnold Schwarzenegger, tout ça, qui ont décidé d'arrêter la viande, le poisson et tout, et en fait qui explique que dans le monde du sport, ça a tout changé, et que... En fait, c'est pas du tout lié. Le sport et la viande, c'est pas du tout vrai. Et c'est incroyable parce qu'il est ultra touchant. Moi, j'ai été tellement bouleversé quand je l'ai vu. J'ai dit, putain, mais c'est génial. J'espère que ça va en motiver plein. Donc vraiment, Game Changers, il est incroyable.
Il est accessible sur
Ouais, il est accessible sur Netflix ou même sur n'importe quel truc de streaming, hein, c'est accessible. Et sinon, après ceux qui ont l'estomac solide, il y a aussi Seaspiracy sur l'industrie du poisson et tout. C'est une horreur, mais il faut être accroché parce que c'est. Quand j'entends les gens disent ouais, mais je vais manger du poisson, c'est meilleur pour ma santé. Oulala, 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 oulala. S'ils savaient ce qu'ils mangent.
En fait, ça dépend d'où il vient, en fait, le poisson. C'est ça, c'est qu'il faut pas. Si c'est le petit pêcheur qui l'a pêché de Marseille, tu vois. Et
bah justement, non, c'est plus ça parce que l'eau, elle est tellement remplie de nutrites, de méthane, de métaux lourds que même les petits poissons.
Oui, voilà, si tu pars de ce principe par rapport à la qualité de l'eau, oui. Après, si tu pars, tu réponds à ça pour la surexploitation, non. Surexploitation, ce sont les gros navires qui font de la pêche illégale, la surexploitation, le chalutage, les démersales, etc.
C'est que même les petits, ils l'utilisent parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et c'est même pas de leur faute, je dirais, hein. Parce qu'ils n'arrivent même pas à suivre le rythme effréné des grosses entreprises.
Oui, mais pas tous. Justement, c'est qu'il ne faut pas les mettre tous dans le même panier, tu vois. Moi qui est à proximité des pêcheurs, etc., je sais qu'il y en a justement, mais qui sont justement, ils font face à ces grandes industries et qui se disent, ouais, nous, notre commerce, il baisse parce que, notre poisson, on le vend plus cher parce qu'on le pêche de manière plus correcte, des techniques plus douces et.
Oui,
plus au local, quoi. Donc, c'est plus cher, mais plus respectueux.
Ils se font complètement bouffer par la concurrence. Mais en vrai, hein, il n'y en a pas tant que ça qui le font bien maintenant. Parce que c'est normal, ils n'arrivent plus à suivre. C'est comme les agriculteurs et tout. Ils disent, mais les gars, mais ils nous bouffent, quoi. Les grandes surfaces et tout, nous bouffent. On ne peut plus rien faire. Ils se suicident tous les... Il y a toutes les semaines, il y a un agriculteur qui se suicide. Donc, c'est qu'il y a un problème.
Et donc, pour finir avec la question signature du podcast, pour toi, la mer, qu'est-ce que c'est ?
J'arrive pas à me décider en fait à qu'est-ce que je peux vraiment dire parce que c'est la mer, c'est quand même quelque chose qui depuis le début de l'humanité, le berceau de l'humanité, a autant fasciné que effrayé l'être humain. Et je crois que je suis exactement dans ce style-là, c'est-à-dire que je suis autant effrayé que fasciné. C'est-à-dire que effrayé dans le sens où c'est tellement puissant, c'est tellement fort, tu sais que la moindre vague, elle peut t'emporter, le moindre courant, t'es mort, quoi. Il faut, tu sais, tous les navigateurs, c'était des gens qui avaient énormément de courage. Et même le fait qu'on n'ait même pas découvert ne serait-ce que 10% de l'océan et tout, enfin, c'est fascinant. Et en plus de ça, je suis émerveillé parce que rien que l'oxygène, en fait, ça provient à 75% de l'océan, hein. C'est pas des arbres, on croit que c'est des arbres, mais les arbres, c'est juste 25%. Tout le reste, c'est l'océan. Donc, l'océan, c'est la mer en général. C'est, voilà, je suis autant fasciné qu'émerveillé. Et apeuré. J'ai peur des fois des. C'est très compliqué, donc je peux pas vraiment me positionner, mais j'ai ces deux dualités en moi avec ça.
J'ai souvent eu ce retour de réponse en définition de la mer. C'est quelque chose de très. Une très grande dualité, de côté aussi très imaginaire, très doux, mais aussi qui peut faire très peur, très violent. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Eric, pour ton partage. Pour toutes les infos concernant Clean Macallan qui seront en description de l'épisode. Et peut-être à bientôt, dans une dépollution.
Avec grand plaisir, merci beaucoup à votre écoute et voilà, vraiment, faites ce qui vous plaît et ne vous faites pas avoir, faites-le parce que vous y pensez réellement et kiffez votre vie, quoi, tout simplement.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Je remercie grandement Eric pour m'avoir accordé son précieux temps dans cet épisode, mais aussi pour avoir partagé l'histoire de Clean Macallan. Je remercie aussi l'équipe de Parlons Peu Parlons Bleu pour leur contribution à cet épisode, Émilie Riclet et Ella Etienne en co-rédaction et Alan Lecornec au montage son. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, le liker ou écrire en commentaire, ça nous fera super plaisir et en plus, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao !